Jules Claresy, Le dernier fantôme, 1873. Napoléon III est mort ce matin à 10h45 à Chislehurst. C'est par cette laconique dépêche que Paris apprit à la fin d'un empereur qui, pendant 20 ans, a gouverné le monde, silencieux, et qui, mort sans parler dans le sommeil opaque du chloroforme, aurait été, on peut le dire, le silence couronné. Comme il faut que, dans la vie parisienne, tout se compose de contrastes, c'est à la première représentation de la petite reine et dans un couloir des bouffes parisiens que la nouvelle nous est parvenue d'une mort déjà connue depuis quelques heures. On pourrait écrire un bien étrange article avec le récit de cette représentation où les airs d'opéra comique étaient coupés de philosophiques réflexions. Les entr'actes se passaient à commenter les renseignements reçus, les dernières consultations médicales, la situation nouvelle que faisait au parti cette disparition d'un homme. Puis, un coup de sonnette du théâtre, on regagnait son fauteuil, on se reprenait à écouter quelques motifs de valse, et tout était dit. J'ai fait d'ailleurs là une remarque bizarre et qui ne saurait contribuer à augmenter beaucoup la somme de respect qu'on éprouve pour une certaine humanité. C'est que dans tout ce public mêlé et même disparate, ceux qui accueillaient avec le plus d'ironie dégagée la nouvelle de ce dévouement n'étaient pas toujours les ennemis nettement déclarés de l'Empire, mais au contraire ceux-là même que l'empereur vivant avait le plus volontiers comblé de ses faveurs. Oui, tandis que les adversaires gardaient une attitude calme et réservée, je voyais s'étaler dans quelque avant-scène tel personnage dont le nom bien connu avait été longtemps compromis dans les intrigues impériales, et j'entendais un homme qui a servi avec un zèle exagéré le système tombé, rééditer à propos de la pierre de l'empereur un vieux mot de Désaugiers et s'écrier en riant « Décidément, il était au bout de sa carrière !»« L'empereur est mort, vive la petite reine !» ajoutait un autre. « L'empereur est mort, je marque le roi !» avait dit un autre en jouant aux cartes. Et tandis que l'opérette égrenait ses airs nouveaux, je songeais à la place qu'avait occupée, usurpée, ce mort, et j'évoquais des souvenirs enfouis. Qui se souvient des jours où la parole gutturale de l'empereur était anxieusement attendue lorsqu'il ouvrait la session du corps législatif? En rappelant ces choses effacées, il me semble que je fais ici de l'archéologie. Que c'est loin, que c'est confus, que c'est vieux! Depuis 11 heures du matin, la grande cour du Louvre était alors envahie par les curieux. On attendait. À Paris, on attend toujours. Il est une race éternelle qui naît publique, qui veut tout voir, tout savoir, et qui, pour satisfaire sa passion dominante, restera 2 heures durant à faire le pied de grue et à bâiller aux corneilles, de comparaison également ornithologique. Le pavillon de nom, tendu de draperies de velours pourpre semé d'abeilles d'or, était assiégé déjà par une file d'équipage. Jusqu'à 12h30, les voitures deviennent de plus en plus nombreuses. On se pressait, on se poussait, on descendait, on voulait voir, on entrait. Le péristyle et l'escalier étaient littéralement ourlés de 100 gardes, roides dans leur cuirasse, la carabine aux pieds, et semblables dans leur superbe immobilité à de hautes statues polychromes. Les casques reluisaient et les poitrines cuirassées se constellaient de paillettes à chaque rayon de soleil. En haut, les musiciens des 100 gardes en tunique rouge se tenaient à leur poste, leur clairon à la main. La galerie de l'école française, qui aboutit à la salle des États, était alors transformée en un passage et traversée d'un bout à l'autre d'un tapis. Les reîtres de Valentin, les moines de Le Sueur, les philosophes du Poussin, regardaient d'un air étonné ce défilé d'habits noirs et de robes claires, d'uniformes et de chamarrures, qui allait durer 1 heure au moins. La salle des États était déjà envahie. On se plaçait comme on pouvait dans les tribunes. Les dames, du haut des galeries, lorgnaient cette foule de dignitaires qui fourmillait et flamboyaient de toutes ses décorations et de toutes les couleurs de ses uniformes. À gauche, dans la galerie supérieure, les ambassadeurs et les officiers étrangers causèrent en s'asseyant et regardaient. Les sénateurs et les députés, les officiers, les magistrats, les archevêques arrivaient par groupes. C'était une confusion de tons crus qui pourtant s'harmonisaient. Un peintre ami des demi-teintes eut poussé des hurlements devant cette salle immense où se croisaient et semblaient se heurter les casques de dragons et les chapeaux de lourds, la robe rouge des cardinaux et les robes bleues de ciel des élégantes, les grands cordons des généraux et les burnous blancs des chefs arabes. Fourmillement de couleurs, opposition de taches brutales, rouge, vert, violet, bleu, ici les officiers étincelants, là les groupes d'habits noirs entassés comme troués de cravates blanches, plus haut le lilas, le rose, le gris perle, le bleu tendre des robes, et pourtant, ô politique de coloriste, tout cela se fondant en un vaste tableau à qui le dais de velours pourpre servait de dernier plan, tandis que le plafond allégorique de Muller, avec ses larges pinceaux et son amalgame de rouge et de jaune cru, tenait lieu de ciel. Peu à peu, l'œil s'habituait à voir clair dans ce fouillis. On distinguait et reconnaissait les visages. On analysait et lorgnait la salle tout entière. Là-bas, n'est-ce pas, monsieur de Nieuwerkerk, en habit rouge, causant avec le maréchal Canrobert? Ah, voici monsieur Fould, qui s'entretient peut-être de son nouveau projet de finance avec monsieur Troplongue. Ah, monsieur Durby parle justement à monseigneur d'Arbois. On se montrait monsieur de Sacy, qui tout à l'heure allait prêter serment et qui étreignait aujourd'hui son habit de sénateur. Et parmi les grandes dames en poudre risée, des actrices, des curieuses du demi-monde, sentant la pommade de concombre, l'opopanax, l'eau de lubin ou le patchouli, Dieu me pardonne si j'eusse deviné qu'elles s'occupaient aussi des affaires du pays. On détaillait et critiquait les toilettes, presque partout des fourrures. Le succès, tout compte fait, pour cette jeune dame qui regagne sa place là-haut à droite. La voyez-vous? Chapeau rose clair, robe rose, garnie de petits gris, agrément rose et pour manchon, un large ruban rose, encore pas entouré de fourrure grise, un mouchoir minuscule, moins que rien, un prétexte pour tenir un fragment de moire à la main. Et pourquoi ce bruit, bon Dieu? Ce sont, me dit-on, les ambassadeurs marocains qui font leur entrée. Je ne les aperçois pas, mais on me montre des officiers étrangers, des Prussiens en tunique sombre, des Russes, des Circassiens avec le bonnet d'Astrakhan. Ils viennent compléter cet ensemble un peu officiel que le soleil, à force de rayons de lumière, de gaieté, rend pittoresque à satisfaire les plus difficiles. Ah, comme ils se jouaient en ces jours de parade et de pause! Comme il se jouait l'ami soleil sur ses épaulettes, sur ses croix, ses rubans, ses crachats, ses dorures, ses velours, ses soieries, ses habits, ses fresques un peu pâles et sedées aux crépines d'or. Tout cela est usé, passé, défraîchi, jeté à la hotte. Sigi, tout ce fracas d'autrefois. Mais un mouvement soudain parcourait cette foule qui se levait brusquement. C'était l'impératrice. Elle s'avançait, montait sur l'estrade et saluait. Elle avait un chapeau blanc, une robe lilas clair s'envolant et un mantelet de dentelle blanche. L'empereur venait ensuite. Il s'asseyait sur le trône. À sa droite, le prince impérial, à sa gauche, le prince Napoléon. Derrière lui, les ministres, le prince Murat et son fils, en uniforme d'officier des guides, tout un monde disparu. Puis le discours, Ce discours dont chaque mot tombait du haut de l'estrade, prononcé avec un accent hollandais, presque allemand. Le discours achevé, le défilé commençait. Les sans-gardes reformaient la haie dans la galerie de l'école française, et l'empereur sortait le premier, puis l'impératrice. Vite, où il fallait se mettre à la fenêtre et regarder maintenant la cour du Louvre, la cour Napoléon III, où les voitures fourmillaient, où la foule s'entassait, où le soleil éclatait joyeux parmi les arbres encore verts. Des sans-gardes à cheval, le sabre haut, entouraient la voiture impériale. Des musiques jouaient soudain l'air de la reine Hortense. Ça et là, les écuyers s'empressaient, les valets de pied couraient, les aides de camp éperonnaient leurs chevaux. Puis toute l'escorte s'ébranlait et brusquement disparaissait dans cette foule du côté des Tuileries. La seule fois que je vis ce spectacle, je sortais, l'habit tout taché de la poudre de riz, des épaules involontairement frôlées en passant. Un jeune homme, brun, solide, énergique, se détacha de la foule et vint vers moi en me disant « Eh bien ?» Le « eh bien » signifiait « qu'a-t-il dit ? A-t-il promis le despotisme ou la liberté, la paix ou la guerre ?» Chaque mot de cette bouche d'augure couronnée était attendu avec fièvre. « Eh bien ?» Et celui qui me demandait cela, avocat seulement connu alors de quelques amis, c'était en janvier 1866, s'appelait Léon Gambetta. Souvenir d'avant le déluge. Puis je me rappelais encore, entre autres choses, ces journées de l'année 1867, où Paris, devenu le caravansérail des rois et le carabaret de l'Europe, accueillait à la fois tant de souverains et parmi eux le roi de Prusse et le tsar. L'arrivée du tsar à Paris. Elle venait se présenter à mes yeux, vision éblouissante et folle. Un temps superbe, le ciel d'un bleu tendre, à la Corrège, les boulevards envahis. De l'entresol aux fêtes des maisons, les fenêtres garnies, les balcons pleins, des robes claires, gris de perles, violet tendre, de jolis visages impatients et caressés par le vent, frissonnants, bavardants, des milliers de ces drapeaux de toutes les couleurs qui sont de toutes les fêtes, de toutes les entrées, de toutes les sorties de rois. Les drapeaux russes faisaient d'ailleurs un peu défaut dans ce pavoisement général. On ne les connaît guère, et puis le Parisien patriote croit bravement que c'est bien assez de fêter un tsar avec des drapeaux tricolores. Le trottoir est encombré. Une quadruple rangée de curieux forme le long de la grande voie comme une double croûte bruyante, remuante, que le cordon des sergents de ville force à demeurer rectiligne. C'est la même foule qui, attendant aujourd'hui l'empereur de Russie, attendait il y a 12 ans la reine d'Angleterre, et justement pendant qu'on tuait des soldats russes. C'est la foule que j'ai vue frémissante à l'arrivée des soldats de Crimée, au retour des soldats d'Italie. La même foule qui accourait vers le prince-président sur ces mêmes boulevards après son voyage en province. La même foule qui défilait enthousiaste pendant de longues heures devant le gouvernement provisoire de la République française. Cela fait rêver qu'un même peuple puisse aimer autant les spectacles et des spectacles de si diverses décolorations. Et tout ce monde attend, la tête tournée vers le boulevard Poissonnière, par où l'on doit apercevoir le cortège. Le bruissement des foules continue mais heurté, qui enfle, gonfle, puis diminue, pour croître encore, emplit cette immense veine de Paris où à cette heure le sang afflue. Les femmes paraissent enchantées. J'entends une forte honnête bourgeoise dire à son mari tout haut « Il paraît qu'Alexandre II est un fort bel homme !» Elles aiment à voir et surtout à être vues. S'il allait tout particulièrement saluer l'une d'entre elles, un passant, j'en vois qui ont de gros bouquets à la main. Une femme qui oserait jeter des fleurs dans la voiture d'un homme qu'elle ne connaîtrait pas semblerait vaguement exaltée. Mais la calèche d'un tsar n'est pas une calèche ordinaire. Mesdames, apprêtez vos roses. Le malheur est que les souverains vont arriver en voiture close. Un frémissement profond, un vaste remous, l'ondulation et le tassement de la croûte de curieux. Ce sont eux. Les sabots des chevaux battent le macadam comme des marteaux d'enclume. Des lanciers passent, le soleil pailletant leurs épaulettes, frappant droit sur la blancheur de l'uniforme et faisant jaillir mille éclairs des visières, des galons, des pompons, des boutons et des sabres. Puis les sans-gardes, colosses bleus, blancs, piqués de rouge, crinières éparses, éblouissants. La voiture qui porte deux empereurs et leur fortune, sans compter à l'empereur futur, passe rapidement. Le temps de saisir l'attitude roide, l'air froid, les grandes moustaches, la tête fière sur un torse splendide du tsar qui s'enfonce dans l'angle de la voiture, et les regards curieux, impatients de voir, presque joyeux, du tsarevitch et de son frère, tout est fini dans un coup d'œil. Maintenant, c'est l'escorte, c'est l'état-major, ce sont les généraux, les ministres, les colonels, les secrétaires, les conseillers, des épaulettes blanches et larges, des poitrines criblées de croix, des rubans et des grands cordons, des têtes blondes, de race slave, énergiques, altières, la même expression sur les visages. Sourire de gala chez ceux qui reçoivent, remerciements calmes et diplomatiques chez ceux qui sont reçus, puis le brouhaha des soldats, des piqueurs, de la cavalerie. À la fin, une voiture découverte et magnifique dans son costume, un officier russe, immobile, avec une poignée de plumes blanches qui flotte au sommet de son casque comme un duvet de cygne. Les curieux n'ont plus rien à voir et suivent un moment encore le cortège qui disparaît dans la lumière, cavaliers, écuyers verts galonnés d'or, équipage étincelant que semblent emprisonner les escadrons au-dessus desquels se dresse la grêle forêt des lances. On se sépare ensuite, le trottoir se répand sur la chaussée, une mer de chapeaux noirs, de chapeaux gris, où s'agitent comme de petites vagues les chapeaux féminins bleus ou roses, ondulent, se mêlent et se heurtent. Les observations vont leur train. J'aime l'uniforme bleu des grands ducs, ils sont donc décorés de la Légion d'honneur. Enfin, ils ont une qualité, après tout, ils sont exacts. Ô triomphe de la démocratie! Les souverains auront beau faire, dorénavant c'est toujours le peuple qui dira comme jadis Louis XIV. J'ai failli attendre. On n'avait point fait passer la voiture du tsar par le boulevard de Sébastopol, ce qui eût été fort impoli, mais on avait cependant permis à Sa Majesté de contempler la colonne de la place Vendôme. Du haut de la plateforme de bronze, le jour de l'entrée des alliés de l'empereur Alexandre Ier à Paris, le fils de Gracchus Babeuf se précipita de rage, tête baissée sur le pavé. J'ai entendu traiter ce suicide l'autre soir de folie pure. Mais quelle chose bizarre, me disais-je alors, que ce voyage tout fraternel de l'empereur de Russie rappelle inévitablement la tournée moins amicale de 1815. Au fait, oui, pourquoi oublierions-nous cette date assez cruelle lorsque nos voisins mettent un soin si tenace à se le rappeler? Et j'ajoutais, à cette heure, il y a de par le monde, en Prusse et en Russie, de braves gens qui se racontent avec une espérance avide la légende de l'invasion. Il y a de vieux guerriers, courbés et blanchis, qui ont gardé sur les lèvres l'âcre saveur du vin de Suresnes, et qui voudraient bien encore en goûter. Il y a des conteurs éloquents qui répètent à la jeunesse ébahie comme Schwarzenberg savait conduire son armée à la victoire, à la mangeaille, aux jolies filles. Que de gens là-bas rêvent des séductions gigantesques des galeries de bois du Palais Royal et des tripots de la rue Vivienne. Ils ont vu cela, ils voudraient le revoir, ou leur père ou leur oncle leur en ont parlé, et ils grillent de savoir si le père a menti. Dans je ne sais quel écrit francophage, le vieux Goertz, un de ces capucins allemands dont se moquait si bien Ludwig Böhm, parle des souvenirs sacrés de Montmartre. Ces Prussiens pensent naïvement qu'ils pourraient encore escalader la butte. Hant le répète assez souvent dans ses œuvres. Nous l'avions trop oublié, nous. Ainsi j'évoquais ces journées d'autrefois. Puis, après le souvenir de cette cavalcade souveraine, c'était le grand jour de la distribution des récompenses au palais de l'industrie. Ce même jour où l'on apprit la mort de Maximilien, fusillé. Paris s'était réveillé ce jour-là comme un homme qui, au lendemain d'un bal masqué, recevrait un billet de faire-part. Le coup de foudre revenu du Mexique avait tout interrompu, fêtes et réceptions officielles, et le sultan était réduit à visiter sans bruit nos monuments, tandis que le prince de Galles, plus curieux, allait contempler au théâtre chinois de l'exposition le mangeur d'œufs et l'avaleur de sabres. Quel dénouement terrible à la plus incroyable des aventures! La tragédie, certes, n'est pas morte, et le théâtre futur encore là, tout tracé, tout sanglant, un sombre et dramatique sujet. Shakespeare n'eût pas rêvé un cinquième acte plus atroce. Au Mexique, d'ailleurs, les drames finissent ainsi par la fusillade pour les grands et pour les petits. On fait bon marché de la vie humaine. Empereurs et partisans, qu'importe, deux coups de mousquet, et tout est dit. Le sang sèche vite sous le grand soleil. 43 ans, presque jour pour jour, avant la mort de Maximilien, un autre empereur, l'Espagnol Iturbide, tombait sous les balles mexicaines le 19 juillet 1824, comme est tombé le 19 juin 1867, l'empereur Maximilien. Lui aussi, Iturbide, avait fait vaillamment les sacrifices de sa vie, chassé des États qu'il avait conquis, proscrit par le Congrès, réfugié en Angleterre, menacé de mort s'il remettait le pied sur le territoire de la République mexicaine. Il s'embarqua à Londres avec ses enfants, revint au pays qui le repoussait, et en débarquant, alla droit au général Felipe de la Garza, en lui disant « Je suis l'empereur !» Garza répondit en lui demandant son épée, en lui annonçant de se préparer à mourir. « Quand cela ?»« Dans 3 heures. » Iturbide s'inclina et réclama son chapelain. Mais au moment de donner l'ordre de l'exécution, le commandant Garza hésita, soit crainte, soit pitié, et envoya au congrès de Tamaulipas, séant à Padella, la nouvelle de la capture. Puis, sous bonne garde, il conduisit le prisonnier au député en donnant, chose bizarre, à Iturbide lui-même le commandement des soldats de l'escorte. Il faut lire dans Maniabal le récit de cette singulière et lugubre catastrophe. En arrivant à Padella, l'empereur apprend que le congrès, constitué en tribunal, l'a déjà condamné à mort. Il était 6 heures du soir. « Savez-vous, dit Turbide au soldat, savez-vous ce qui arrive ? Vous allez me fusiller, mes amis. » Et au moment de partir, « Allons donner un dernier coup d'œil au monde. » Le lieu de l'exécution était assez éloigné. « Oh, me fait marcher bien longtemps, répétait le condamné. » Quand on s'arrêta, il détacha de son cou son rosaire, le donna au prêtre. « C'est pour mon fils aîné. » Et, prenant sa montre, « Pour mon plus jeune fils, arrêtez les aiguilles à l'heure de ma mort. Quant à cette lettre, elle est pour ma femme. » Ensuite, regardant sa bourse, il y trouva 3 onces d'or en petite monnaie et les fit distribuer à la troupe. Au moment de donner le signal des coups de feu, Iturbide s'écria d'une voix claire. Mexicains, à cette heure de mort, je vous recommande l'amour de la patrie, c'est lui qui doit vous conduire à la gloire. Je meurs pour vous avoir secouru, mais je meurs content parce que je meurs parmi vous. Feu, dit-il ensuite à l'adjudant Castillo. Il tomba roide mort. Le dernier fils d'Iturbide, le prétendant au trône, vient de mourir après avoir tenu un cabaret aux environs de Paris, dans la banlieue. Les journaux annoncèrent ainsi cette mort. Hier, vers 9h du matin, passait silencieusement dans la grande avenue de Neuilly un corbillard des pauvres, suivi d'une cinquantaine de personnes. Ce modeste convoi n'était autre que celui d'un prince de sang impérial, le prince Iturbide, que de rares amis et quelques voisins accompagnaient à sa dernière demeure. Le deuil était conduit par M. le maire, au président de la Société de Saint-Vincent-de-Paul. Après une messe basse, dite par M. Batien, vicaire de la paroisse de Neuilly, le corps a été inhumé dans un petit coin du cimetière, une simple concession temporaire faite pour 7 ans. Quand on songe qu'au bout de ces 7 ans, le terrain sera très probablement retourné et qu'il ne restera plus de traces de celui dont le père fut empereur du Mexique. Actuellement, une croix de bois noir avec le nom du défunt rappelle seul qu'un prince gît sous cette terre. Nous avons été voir cette tombe hier après-midi. Sur le tertre fraîchement remué, il n'y avait pas une couronne, pas même une simple fleur. Le prince Augustin, Cosmis d'Urbide, était âgé de 48 ans et demeurait à Paris depuis le mois de décembre 1865. Augustin Iturbide, quoique sans fortune, avait néanmoins de quoi vivre. Quand, cédant aux sollicitations d'une femme qui exerçait un grand empire sur lui, il avait en 1866 fondé une table d'hôte au numéro 6 du boulevard Montmartre, et en 1867, acheté un balconcert à Courbevoie. Il ne reste plus maintenant, des 8 enfants de l'empereur Iturbide, qu'une princesse âgée de 52 ans et qui demeure à Bayonne. Un cabaret chantant au coin d'un carrefour. Quel triste roman que l'histoire! Et comme elle se répète jusqu'à faire trouver banale l'horreur elle-même, qu'elle nous garde d'ailleurs d'ironiques et cruelles antithèses. Oui, je m'en souviens, c'était au moment de présider à la distribution des récompenses au palais de l'Industrie que Napoléon III recevait la terrible dépêche, aussi terrible que celle de janvier 1873. Quel refrain à l'hymne qu'avait composé Rossini, que cet écho de la mousqueterie de Juarez. Spectacle évanoui et que je revoyais l'autre soir. J'avais devant les yeux encore ce tableau étonnant. 20 000 personnes entassées, toilettes claires, uniformes, habits noirs constellés de croix, toutes les dorures et chamarrures de la terre. Il avait plu des ordres étrangers. Tout d'abord, des détails se perdaient dans l'ensemble, et quand on ferme les yeux à demi, cette foule semblait immobile et telle qu'on aurait pu la regarder dans un stéréoscope. La lumière se décolorait, on n'avait plus devant soi qu'un entassement sombre où se détachaient, pressés, grenus, les chapeaux blancs, lilas ou roses, et la poudre de riz des épaules apparaissait sur les gradins comme s'il avait neigé. Si l'on essayait ensuite de saisir d'un coup d'œil le vaste ensemble, c'était un éblouissement. Tamisé par des velours d'un bleu doux, d'un vert d'eau parsemé d'étoiles, les rayons de soleil ne perçaient que çà et là, comme d'un jet incandescent, ce je ne sais quoi de tendrement opaque qui était le jour. Autour du palais, des faisceaux de drapeaux, en bas, la foule, avec un demi-murmure, fait non pas de joie grondante, comme dans les fêtes publiques, mais de menus propos à voix basse, comme dans un salon. Parfois des remous la parcouraient, et ces milliers de têtes se penchaient, se courbaient vers un seul point, à empereur, comme des épis sous le vent. Au-dessus des gradins, les éventails s'agitaient comme des ailes de papillons avec des frémissements voluptueux. Les invités allaient, venaient, longeant l'immense bordure de fleurs. Les exposants se groupaient autour de leurs chefs-d'œuvre industriels, disposés en faisceaux. Puis, si l'on découpait de petits points de vue dans la fourmilière, peu à peu émergeaient quelques rouges tuniques, quelques étonnants costumes, le bonnet à aigrettes et la pelisse fourrée d'un maillard, le casque d'un prussien, l'uniforme élégant d'un officier de cosaque, la robe brodée d'un persan. Il y avait là de la féerie. Et parmi ces splendeurs orientales, à côté des ambassadeurs à grands cordons, leurs rubans au cou et leurs plaques de diamants sur la poitrine, on apercevait en simple frac, mais en tenue correcte de gentleman républicain, quelques-uns des ministres des États-Unis d'Amérique. Et pâle, troublé, essayant cependant de sourire, Napoléon, tout en distribuant les récompenses, entrevoyait dans cette foule le spectre sanglant de Maximilien. Ce spectre devait le hanter plus d'une fois. On a retrouvé dans le tiroir même du bureau de l'empereur une photographie de la redingote et du gilet troué de balles que portait l'archiduc Taquerretaro. Napoléon conservait aussi, pourquoi, une gravure allemande, quelques dessins du Kladderadarst sans doute, où il était lui-même représenté debout dans son lit, tandis que le fantôme de Maximilien venait, enveloppé d'un suaire, tâcher le sang, lui dire « Les balles qui m'ont frappé rejaillissent jusqu'à ton front. » Napoléon devait en effet amèrement regretter d'avoir jeté dans une telle aventure l'infortuné Maximilien. Et qui sait si des larmes impériales n'ont point coulé sur les photographies de ses vêtements déchirés par les balles. Il ne faudrait pas trop, d'ailleurs, s'abandonner aux sentiments et par amour de l'équité, par un penchant naturel vers la justice, sembler prendre le parti d'un ennemi qui fut implacable. Le sentiment et la sentimentalité sont en politique deux guides exécrables, et ce furent ceux-là, il faut bien le reconnaître, que suivit le plus souvent cet homme de lettres manqué, ce chasseur de chimères, qui fut le prince Louis-Napoléon Bonaparte. La nature personnelle de cet homme, pour n'envisager sa physionomie que par des côtés intimes, était absolument opposée à tout ce qui, dans le monde, est immédiatement applicable et pratique. Ce n'est point par de vaines raisons qu'étant jeune, il s'était senti attiré par les poésies de Schiller et qu'il en avait traduit quelques-unes. Il y avait en lui de l'allemand, non point de l'allemand pratique, Yankee d'Europe, métis de juifs et de germains, que nous a révélé la dernière guerre, mais de l'allemand à la façon des portraits que nous traçait jadis Madame de Staël, de l'allemand rêveur et perdu dans les brouillards du Rhin. On pouvait se faire une idée exacte de l'esprit même de Napoléon en jetant sur son cabinet de travail aux Tuileries un coup d'œil même rapide. C'était là une accumulation étrange d'objets disparates, témoignant de préoccupations multiples. Mais, par une rencontre singulière, on s'apercevait bien vite que tout ce qu'il y avait de chimérique au monde, d'impossible, d'irréalisable, d'impraticable, était l'objet des sollicitudes constantes des études de l'empereur, tandis que tout ce qui était net, tangible et d'intérêt direct ne l'attirait, ne le sollicitait que médiocrement. Devant lui, mais à peine consulté, étaient entassés les dossiers relatant les forces exactes de la Confédération du Nord, les rapports clairs et alarmants du colonel Stoffel qui depuis les relevés de chiffres, tout ce qui devait forcer un souverain à se mettre immédiatement en demeure de maintenir l'État dans la force voulue. Mais peu importait évidemment tout cela à Napoléon III. Ce qui l'attirait, ce qui le séduisait, c'était ou un modèle curieux de canonnière, ou une mitrailleuse perfectionnée, ou un sac inédit, ou une bouillie nutritive, sorte de brouet à l'usage de l'armée, toutes choses dont les modèles et les échantillons étaient là, inutiles, chimériques dans l'application, mais examinées évidemment avec soin, patiemment, longuement, par un esprit rêveur, qui avait cette manie spéciale d'inventer, d'innover dans un art où il fut toujours profondément inhabile, l'art militaire, le plus opposé de tous à son tempérament de songeur. Il aimait si fort la chimère, ce mot qui, en parlant de lui, revient sans cesse sous la plume, que sa grande œuvre littéraire, La vie de Jules César, fut encore une chimère en action. Il s'était épris de cette grande et redoutable figure. César, dont il semblait vouloir faire comme un aïeul de sa propre race, se croyant lui-même le petit-fils de la déesse. Négligeant les affaires du pays pour la confection de cet ouvrage inachevé, mosaïque érudite à laquelle tous les savants du monde apportaient leurs cailloux, il était heureux de s'enfermer, en compagnie de quelques membres de l'Académie des inscriptions, avec de vieux textes, de vieux parchemins et de vieilles médailles. Il croyait alors trouver lui-même ce qu'on lui indiquait et traduire ce qu'on lui expliquait. Cette humeur mal étouffée d'homme de lettres, de rêveur schillérien, qui avait été celle de sa jeunesse, se montrait encore et réapparaissait jusque dans sa vieillesse. Et puis il éprouvait une profonde joie à goûter, décernée par les plus brillants des écrivains de son temps, cette louange littéraire si douce et si caressante au cœur de l'homme. Des gens qui n'avaient pas le courage d'achever la lecture du lourd travail impérial n'en écrivaient pas moins à l'auteur, en accumulant les louanges et les flatteries, que la vie de César était le monument littéraire de ce siècle. Il devait bien, à ses heures de retour sur lui-même et de lucidité, il devait fièrement mépriser l'humaine espèce, cet empereur tombé, qui avait tour à tour connu de si près les flatteurs, les exploiteurs, les complices et les ingrats. Mais quoi, une sorte de confiance fataliste, et une foi en lui-même le soutenait contre des réflexions pareilles. On a retrouvé dans un carnet de sa jeunesse les pensées qui agitaient alors son âme, la plus troublée, la plus hésitante, la mieux préparée à devenir la proie des intrigants qui fut jamais. « J'affronte un orage, un souffle m'abat », écrivait-il alors dans ces années où, loin de France, il errait tantôt à Port-Louis, tantôt à Rio. Un peu plus tard, dans ses notes, il ajoute, rapportant quelques paroles féminines qu'il applique à sa propre destinée, j'ai été gâtée, jeune, brillante, recherchée, encensée, calomniée, persécutée, mourante, réhabilitée, et me voilà. Ce « et me voilà » résumerait toute sa théorie fataliste. Le principal à ses yeux était de durer pour survivre aux événements et aux hommes, et pour les dominer. Cette idée, on la retrouve encore plus d'une fois exprimée dans ses pensées de jeunesse. Il écrit cela justement au lendemain de l'attentat de Strasbourg. « Je crois en moi. » Cette foi en lui-même, ou plutôt en l'idée napoléonienne, à ce rêve colossal et insensé de la famille, c'est ce qui devait faire la force de cet homme, lui assurer un jour, et en dépit de ses propres fautes, le premier rang dans ce pays de France, attaché alors en esclave à cette légende bonapartiste, faite de rayons et de brume, aujourd'hui dissipée. Nous devions payer terriblement cher ces hallucinations et ces admirations instinctives de la force. Mais, personnellement, nous avons assez combattu l'Empire alors qu'il était puissant pour garder une réserve devant l'empereur mort. Il y a là, cependant, une leçon de morale qu'on doit donner à méditer au peuple. Toute nation qui s'abandonne elle-même par terreur des éléments qu'elle contient dans ses flancs est une nation perdue. Elle craint d'enfanter dans la douleur, et par crainte de ce mal, elle se déchire elle-même et se laisse déchirer les entrailles par un sauveur qui fait durement solder son opération. La maladie suprême de Louis-Napoléon est d'ailleurs un dernier argument contre la monarchie. Il est évident que, douloureusement affecté par ce mal mortel qui l'a terrassé, Napoléon n'avait plus, surtout dans ses dernières années, la liberté de penser et d'agir. C'est le propre de semblables maladies d'absorber et de faire converger sur un seul point toutes les facultés d'un être. L'histoire physiologique tirera parti un jour du dépôt d'oxalate de chaux de l'ex-empereur. La vessie de Cromwell dont parlait Pascal, la fistule de Louis XIV, qu'a rendu célèbre M. Michelet, ont désormais un pendant. Il est proclamé que c'est à un malade que la France, au mois de juin 1870, avait remis ses destinées, que c'est un malade qui, en juillet, n'a pas eu la force de résister à ce qui le poussait à faire la guerre à l'Allemagne dans l'espoir d'y trouver quelque profit, et que c'est un malade qui, après Woerth et Forbach, a perdu à Metz des jours précieux pour le salut de l'armée en s'obstinant à rester à la tête des troupes, et que c'est un malade, enfin, qui a guidé ou embarrassé de Châlons à Sedan la marche de la dernière armée de la France, et que c'est un malade qui a enveloppé dans sa chute le drapeau même de la patrie. Voilà ce que risquent les nations en ne trouvant point l'énergie de se gouverner elles-mêmes, en abdiquant leur volonté, leur libre arbitre et leur conscience. Je n'oublierai jamais le départ de l'armée de Châlons par un matin pluvieux du mois d'août. Quelle triste aurore, frileuse et sombre comme un jour d'automne. Les soldats harassés pataugeaient dans la boue, déroulant les longues files de leurs colonnes silencieuses. Parmi eux, l'empereur en voiture, drapé dans un caban doublé de rouge, passait, saluant çà et là des troupiers qui ne lui rendirent déjà plus le salut. Cela sentait la ruine et la défaite. Un vent de débâcle sifflait, et nous regardions tout, le cœur comprimé et désolé, car il s'agissait maintenant du salut de la France. Quelques jours avant la déclaration de guerre à l'entrée en campagne, une consultation de médecins avait eu lieu sur l'état de la santé de Napoléon, et le docteur C avait été chargé de faire connaître un diagnostic détaillé. Ce diagnostic, aujourd'hui, appartient à l'histoire aussi bien que le registre de Fagon. À cette époque, 5 juillet 1870, il ne restait d'une anémie ancienne due à la captivité de Ham, c'est-à-dire à une aération insuffisante et à des influences morales, d'autres traces que des hyperesthésies cutanées et musculaires, des douleurs superficielles de la peau des cuisses, une grande sensibilité près des articulations des pieds. Quelques phénomènes goutteux se montraient aussi çà et là. Mais la véritable maladie, M. D ne s'y trompait pas, c'était la lésion de la vessie. Il faudrait lire, avec ces termes scientifiques, la description des hématuries, de la dysurie que donne le savant docteur. Bref, M. C concluait ainsi: nous considérons comme nécessaire le cathétérisme de la vessie à titre d'exploration, et nous pensons que le moment est opportun par cela même qu'il n'y a actuellement aucun phénomène aigu. Si en effet la dysurie ou la purulence où les douleurs augmentaient ou reparaissaient, on aurait à craindre de provoquer par l'exploration une inflammation aiguë. J'ignore si les opérations du docteur Thompson ont amené ce que redoutait le docteur C. Et jusqu'à cette heure, on n'est pas tout à fait renseigné à Paris sur la cause suprême de la mort de Louis-Napoléon. Toujours est-il que le malade était déjà à demi condamné lorsqu'il partait presque furtivement de Saint-Cloud en juillet de 70 pour se rendre à Sedan, où il eût pu mourir sans les souffrances matérielles et morales de ces deux dernières années, et avec l'auréole du devoir et du sacrifice qui manque terriblement à cette mort de Chislehurst. Il me semble au surplus le voir errer, attristé, abattu, dans ses appartements de Camden House, où posant la main parfois sur quelque écrit de sa jeunesse, il devait lui arriver de relire ce qu'il avait écrit, autant jadis où il rêvait d'amalgamer le socialisme de M. Louis Blanc avec le régime policier de Fouché. Peut-être a-t-il retrouvé alors cette phrase qu'il écrivait voilà longtemps dans son travail de l'organisation militaire en France, où il réclamait précisément le système prussien, le système obligatoire pour tout citoyen valide. Si l'humanité permet qu'on hasarde la vie de millions d'hommes sur le champ de bataille pour défendre sa nationalité et son indépendance, elle flétrit et condamne ces guerres immorales qui font tuer les hommes dans le seul but d'enflammer l'opinion publique et de soutenir par quelque expédient un pouvoir toujours dans l'embarras. Ham. Peut-être encore a-t-il pu méditer dans son exil de châtelain anglais cette vérité qu'il a démontrée après l'avoir proclamée, pour ne bâtir rien de solide sur le mensonge. Et maintenant, tout est dit. L'homme qui tint si longtemps le sort de la France entre ses mains et dont l'Europe attendit souvent la parole, lorsqu'arrivait une année nouvelle, pour savoir si le monde demeurerait en paix ou s'égorgerait cette année, ce somnambule couronné qui meurt dans son rêve inachevé, ce César est couché là-bas, dans un cottage des environs de Londres. Il est parti de l'exil pour aboutir à l'exil. Né avec une âme tendre, il a commis peu à peu, en avançant dans la vie, tout ce que peut commettre un caractère ambitieux et pusillanime. Sa mère lui sera fatale, écrivait de lui le roi Louis de Hollande, qui voyait avec effroi la reine Hortense entretenir des rêves de pouvoir dans cette jeune tête. Le roi Louis oubliait combien cette fatalité pèserait aussi sur la France. L'Empire, maintenant, n'est plus qu'un souvenir. Un jour, dans une leçon publique en Sorbonne, M. Saint-Marc Girardin, qui n'en faillit pas moins devenir plus tard sénateur de l'Empire, expliquait un passage d'une tragédie lorsqu'il arriva et s'arrêta à ce vers « L'Empire est quelque chose et l'Empereur n'est rien ». « Messieurs, interrompit alors le professeur, ne pourrait-on pas dire, avec plus de vérité encore, mais en prose, l'empereur est quelque chose, et l'empire n'est rien ?» Et tout aussitôt, ce fut à cette allusion directe, un tonnerre d'applaudissements dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne. Monsieur Saint-Marc Girardin avait raison. L'empereur était la clé de voûte d'un système qui devait s'écrouler après lui. Ce n'est pas seulement Napoléon III qui gît à cette heure, glacé et sans vie, dans la tombe de Chislehurst. C'est l'Empire !